Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous commencerons ce journal à Londres, dans un hôpital saturé par le Covid-19. Le variant du virus multiplie les malades et épuise le personnel soignant. Pendant ce temps, en France, les premiers vaccinodromes accueillent les premiers arrivants. Si les soignants espèrent un sursaut collectif, l'OMS rejette l'idée d'une immunité planétaire cette année. Un plan jeune pour mieux rémunérer les moins de 25 ans qui travaillent et les entreprises qui les embauchent. La promesse est belle, elle est faite par le gouvernement français. La réalité plus difficile, c'est ce que nous dira notre reporter. Et puis nous irons au Mozambique où les djihadistes multiplient les attaques ces dernières semaines et poussent le groupe Total à exfiltrer ses salariés. Plus de 80 000 morts et des hôpitaux sous pression. Le Royaume-Uni vit une période sombre, en particulier à Londres où les hôpitaux sont au bord de la submersion face aux variants du Covid-19, plus contagieux que le Covid-19 lui-même. Les soignants travaillent depuis plusieurs jours dans des conditions très difficiles, c'est ce qu'a constaté notre correspondant Richard Place.
C'est un imposant bâtiment gris et vert, c'est le University College Hospital. À travers la baie vitrée qui orne la façade, on peut voir le personnel et les patients. Tout le monde porte un masque et tout le monde paraît assez calme. Pourtant, dans les étages, dans les couloirs, c'est l'animation comme jamais depuis le début de cette pandémie. Amira est infirmière en soins intensifs ici à Londres. Elle ne veut pas dire dans quel établissement elle travaille. Elle craint des représailles de la part de sa direction parce qu'aujourd'hui, elle prend la parole pour dire sa fatigue, son épuisement, le manque de moyens et la difficulté de faire correctement son travail.
C'est très effrayant, c'est traumatisant. Je ne sais pas où nous allons puiser, mes collègues et moi, la force pour nous lever le matin, pour retourner au travail ou le soir quand nous faisons des gardes de nuit. Des médecins d'autres services viennent nous aider en soins intensifs, mais ils n'ont pas été formés pour ça. C'est fou. On redoute tous beaucoup plus de morts dans les jours et les semaines qui viennent.
Amira raconte ses journées interminables où elle ne s'accorde aucune pause de peur des conséquences dramatiques. Alors chaque jour, avant de venir travailler, elle boit très peu pour ne pas aller aux toilettes de la journée. Elle fait ce métier depuis 10 ans. Elle était là pendant la première vague. Elle a aussi participé à des missions humanitaires dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient. Mais elle n'a jamais connu une telle pression, dit-elle aujourd'hui.
Hier en Grande-Bretagne, les autorités sanitaires signalaient encore plus de 46 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 529 décès supplémentaires. Les chiffres sont heureusement un peu moindres de l'autre côté de la Manche en France, mais inquiétants aussi. 310 morts hier liés au Covid-19 et surtout des hospitalisations toujours en hausse, à près de 29 000 au total sur le territoire. La vaccination parallèlement s'accélère. Nous évoquions hier ici même les 300 centres ouverts en France. Rosalie Lafarge s'est rendue dans celui de Meaux, en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. 40 personnes ont pu s'y faire vacciner hier. Et le docteur Christian Allard, cancérologue, responsable de ce centre, également adjoint au maire Les Républicains, espère que cela va encourager l'ensemble de la population à suivre.
Tout le monde dans ce pays n'est pas contre la vaccination, pas du tout. Et puis vous savez très bien qu'il y a des gens indécis, ce qui peut se comprendre, parce que dans la cacophonie ambiante, plutôt inquiétante, en tout cas pas rassurante, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui hésitent. Mais quand on va voir qu'il y a une majorité de gens qui viennent se faire vacciner, qui viennent pour leur deuxième injection, je suis sûr que beaucoup, beaucoup vont rejoindre ces lignes vaccinales. L'objectif, c'est ça, d'avoir une immunité collective la plus importante. C'est la seule façon, en l'absence d'un médicament qui tue ce virus ou qui le paralyse, c'est la seule façon de nous en sortir. Mais c'est une opération, c'est pas le coup de baguette magique. Ça va prendre des mois. Le temps de vacciner toute la population, ça va demander au moins 2 mois, voire 3 mois. Parce qu'il faut compter, il y a le rappel. Mais on sera capable de le faire.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge à Meaux hier, alors que l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'une immunité collective ne sera pas possible cette année en 2021, les vaccinations étant trop lentes et disparates sur la planète et les contaminations trop rapides. Conséquence économique maintenant de cette crise, comment assurer un avenir aux jeunes de moins de 25 ans? L'été dernier, le gouvernement avait promis 7 milliards d'euros pour les entreprises qui embauchent des jeunes en CDD longs, en CDI ou en apprentissage. Mais cet argent tarde à venir. Aujourd'hui, les députés vont débattre dans l'hémicycle de l'Assemblée d'un plan gouvernemental, car de l'aveu même du ministère du Travail, à peine plus d'un quart des dossiers déposés ont été validés et payés, Thomas Giraudeau.
Dépassé par le succès du plan jeune, l'État a embauché 200 personnes supplémentaires à l'agence de services et de paiement pour traiter l'immense pile de demandes qui s'entasse, près de 400 000 dossiers reçus. Celui de Jean-Michel Garcia dans le Lot-et-Garonne prend la poussière depuis le mois d'août, date où ce dirigeant de TPE a embauché deux jeunes apprentis.
Ça fait 1300 euros par mois qui ne rentrent pas dans la trésorerie de l'entreprise, donc que l'entreprise avance. Alors je veux bien être patient, mais depuis le mois d'août, ça commence à faire un peu long. Je ne comprends pas que le dossier traîne alors qu'on parle de digitalisation, de numérisation, et que quand on appelle leur numéro en 0809-549-549, que je connais par cœur, on arrive à voir personne au bout du fil.
Il est très difficile de joindre le service par téléphone, affirme aussi Amel Le Commandou. Pour son embauche en CDI en septembre, ses patrons devaient toucher 4000 euros. Ils les attendent toujours, tout comme les 8000 euros de prime pour un apprenti engagé en octobre.
On n'a pas de notification d'avancement sur les dossiers, pas de délai. Et ensuite, on a eu des soucis par rapport surtout aux plateformes qui sont pas du tout claires et qui sont surtout multiples en fait. Et c'est un petit peu ça la complexité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents pour un seul et même dossier.
Critiquée sur le sujet, la ministre du Travail s'engage, mais uniquement sur les primes à l'embauche d'apprentis. Elles seront versées d'ici le 5 février. À la CPME, on veut croire en la promesse d'Elisabeth Borne. Si elle l'annonce, nous dit le syndicat patronal, c'est qu'elle doit mettre les moyens nécessaires.
C'était Thomas Giraudeau pour France Culture. Il y a du monde à gauche. À un an et demi de la présidentielle, Arnaud Montebourg a désormais un mouvement, un nouveau parti officiellement lancé. C'est dimanche soir, quand la maire de Paris, socialiste Anne Hidalgo, annonçait-elle une plateforme d'idées pour un projet à gauche à l'aube donc de la présidentielle. Autre ambiance à la droite de la droite maintenant. 80 responsables de Debout la France avaient quitté le navire en décembre dernier. Eh bien, hier encore, deux nouveaux cadres sont partis. Ils rejoignent en fait un mouvement proche de Marine Le Pen, Antoine Maret.
Lisa Haddad, députée suppléante de Nicolas Dupont-Aignan, et Nadejda Silanina, ex-déléguée nationale à l'assimilation républicaine au sein de Debout la France, ont annoncé hier leur départ du parti souverainiste. Toutes deux rejoignent Demain la France, un mouvement fondé par Jean-Philippe Tanguy, lui-même ancien de Debout la France.
Nous sommes un collectif de cadres gaullistes, souverainistes, qui assument qu'il faut faire alliance avec Marine Le Pen, qu'il faut l'épauler pour construire un projet et une coalition qui peut gagner l'élection présidentielle. Donc au fur et à mesure que M. Dupont-Aignan n'est pas capable de justifier les motifs de son refus de s'allier avec Marine Le Pen, les cadres de Debout la France ont compris que ce que je disais était vrai et de bon sens, tout simplement.
Une alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, il y en a pourtant eu une entre les deux tours de la présidentielle de 2017, mais un accord sans lendemain. Alexis Villepelet, le porte-parole de Debout la France.
Debout la France, c'est une formation gaulliste, indépendante, qui n'a pas vocation à être le supplétif de telle ou telle formation politique.
Nicolas Dupont-Aignan affirme vouloir éviter un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, lui qui avait pourtant fait campagne avec cette même Marine Le Pen au second tour de la dernière présidentielle, et pour nombre d'anciens cadres de Debout la France, c'est à n'y rien comprendre.
Aux États-Unis, les démocrates avancent vers l'impeachment de Donald Trump, procédure de destitution. L'opposition a en effet formellement demandé au vice-président Mike Pence de le démettre de ses fonctions, sans quoi la procédure serait lancée. Des forts remous donc, à 8 jours de la passation de pouvoir avec Joe Biden, d'autant qu'hier, le ministre de la Sécurité intérieure a lui aussi démissionné. Le point sur toute l'actualité à Washington, ce sera dans le journal de 7h, dans moins d'une demi-heure sur France Culture. D'ici là, c'est au Mozambique que nous nous arrêtons ce matin. Sur la côte orientale de l'Afrique. Les djihadistes y gagnent du terrain, notamment près de la Tanzanie. Ils s'implantent près d'un énorme projet de gaz liquéfié dont le groupe pétrolier Total est le principal opérateur. La menace est donc grande et l'entreprise française a commencé ces derniers jours à évacuer une partie de son personnel au Marwaman.
Pour le groupe Total, le scénario est en train de tourner au cauchemar. Les attaques djihadistes se rapprochent jour après jour de son méga projet gazier, un complexe offshore en construction de plus de 16 milliards d'euros qui doit voir le jour en 2024. Un programme d'investissement pharaonique dans un cadre idyllique. Des plages de sable fin à perte de vue, des eaux turquoises, un paysage de carte postale dans l'un des pays les plus pauvres au monde, gangréné par la menace terroriste. Des djihadistes qui ont déjà poussé ces dernières années plus de 570 000 civils sur les routes de l'exode, car comme en Syrie où en Irak, ces islamistes ultra-radicaux désignés au Mozambique sous le nom des Al-Shabaab pratiquent les décapitations et les massacres de grande échelle. Alliés de Daesh, ils prétendent se substituer à l'État central dans le nord du pays où les autorités sont totalement dépassées au point que Total a dû retirer ces derniers jours une partie de ses 3000 salariés. Une situation qui ne cesse de se dégrader, ce qui pourrait remettre en question le projet du groupe pétrolier français.
C'était Omar Ouaman. Du gris et de la pluie pour tout le monde ou presque en France métropolitaine. Seules les frontières du sud resteront au sec aujourd'hui. Ce matin, prévoyez 3 à 10 degrés d'est en ouest. Il est 6